Allez, vite. Évidemment, la question de la sanction. Et la question de la sanction, elle est absolument centrale sur cette problématique-là. Et elle va naturellement de pair avec le caractère obligatoire, en réalité. C'est ce que je vous disais en introduction. Si vous ne respectez pas l'obligation qui est édictée dans la règle, alors vous serez sanctionné. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est un peu les deux pans d'une même réflexion, les deux faces d'une même médaille, dites ça comme vous voulez, mais les deux vont très clairement de pair. La sanction, elle peut prendre plein de formes différentes. Les plus connues des sanctions, souvent par les étudiants quand ils arrivent en première année, c'est les sanctions pénales qui relèvent du droit pénal. Les peines privatives de liberté, donc notamment les peines de prison, les amendes, les retraits de permis, on en parle beaucoup en ce moment, tout ça, c'est des peines qui sont des peines qui relèvent du droit pénal, c'est-à-dire d'un droit répressif. C'est une punition au titre de sanction. Le comportement incriminé est regardé comme grave par la société. Là encore, c'est ce que je vous disais en introduction, il y a des nuances à apporter. Vous avez trois catégories d'infractions, on en reparlera en droit pénal, mais les contraventions en bas, les délits au milieu et les crimes en haut. Évidemment, l'intensité de la sanction n'est pas la même selon le comportement adopté. Vous n'allez pas sanctionner un viol et un meurtre de la même manière que vous allez sanctionner le téléchargement illégal ou le fait d'avoir commis un excès de vitesse de 15 km/h sur une autoroute pour rentrer de vacances. Voilà. Il y a des sanctions pénales qui existent, mais l'éventail et l'intensité des sanctions pénales est adaptée d'abord par la loi, quand la loi énonce le plafond de sanctions, parce qu'en fait dans les textes c'est ça, quand on vous dit c'est puni, j'en sais rien, moins de 5 ans d'emprisonnement et de 20 000 euros d'amende, c'est que le juge peut décider d'aller jusqu'à ce plafond-là pour l'infraction. Mais le juge, en fonction des considérations de l'espèce, qui peuvent être de plein d'ordres différents, aussi décider d'amenuiser, d'abaisser la sanction. Mais ces sanctions-là, c'est des sanctions qui relèvent du droit pénal. Il y a d'autres types de sanctions. On donnait tout à l'heure l'exemple de l'obligation naturelle où vous vous engagez avec votre frère ou votre sœur et en disant en fait on peut saisir un juge pour vous contraindre à continuer. C'est ce qu'on appelle une exécution forcée du contrat, ça. Vous ne souhaitiez plus continuer et le juge va vous contraindre à continuer parce que précisément vous vous étiez engagé. Ça, en droit des contrats, c'est ce qu'on appelle une sanction qui relève de l'exécution forcée. Porte bien son nom, hein. On vous force à exécuter l'engagement que vous aviez souscrit. C'est une forme de sanction. Et tant qu'on est en droit des contrats, il y a d'autres types de sanctions qui existent. La nullité ou la résiliation. Si vous ne respectez pas les conditions de validité d'un contrat, votre contrat s'annule. Si vous ne respectez pas les conditions du mariage, le mariage est nul. Si vous vous mariez à 14 ans, le mariage est nul. Sans l'autorisation de vos parents, c'est un cas particulier, mais sans l'autorisation des parents, le mariage est nul. En dessous, de toute façon, la question de l'autorisation ne se pose pas. C'est ce qu'on appelle des causes de nullité. Vous pouvez obtenir l'annulation. Et dans ce cas-là, l'annulation, c'est ce qu'on appelle un effet rétroactif. Donc ça joue pas seulement pour l'avenir, mais aussi pour le passé. On fera comme si la situation n'avait jamais existé. Vous pouvez obtenir aussi des résiliations de contrat à titre de sanction. Et puis, il y a une catégorie que vous connaissez davantage, c'est la catégorie des dommages-intérêts. Alors, la différence, elle est facile à faire avec l'amende. On a parlé de l'amende tout à l'heure. Les deux sont des sanctions. L'amende, elle est versée à l'État. Quand vous prenez 2000 euros d'amende, ça va dans les caisses du Trésor public. Si vous êtes condamné à 2000 euros de dommages-intérêts à l'égard de la victime, c'est la victime qui récupère cet argent-là. Les dommages et intérêts, c'est une sanction qui joue aussi comme réparation. Voilà. C'est une sanction pour celui qui paye, c'est une réparation pour celui qui avait subi le dommage que vous vous aviez causé. C'est des exemples comme ça de sanctions, mais c'est pour vous donner une espèce de panorama un peu de ce dont quoi peut relever la sanction en droit. Et donc, évidemment, c'est ça qu'il faut retenir. La puissance publique assure la capacité de sanction. C'est parce que la puissance publique sanctionne que la règle de droit doit être respectée par tous. Si vous voulez le tourner à l'inverse, la règle de droit doit être respectée par tous parce que l'État l'impose, et si ce n'est pas le cas, alors des sanctions seront prises. Des sanctions seront prises par la puissance publique. On pourra saisir un juge et obtenir votre sanction. Voilà. Donc on voit bien que la définition de la force contraignante, elle est relativement facile à comprendre, et en tout cas elle nous permet là bien de distinguer avec les règles morales et les règles religieuses. Si vous ne respectez pas une règle morale, il n'y a pas de sanction étatique. Si vous ne respectez pas une règle morale non plus. Voilà. Mais par contre, si ces règles-là sont traduites dans le droit, alors la sanction par l'État, par la puissance publique, sera possible. Et c'est ça qui fait la quintessence de la règle de droit, en fait. Ça nous amène quand même à un effort de justification. Qu'est-ce qui explique cette force contraignante? Comment on a essayé de théoriser cette force contraignante? Donc ça fait l'objet d'un paragraphe 2, justification, pardon. Paragraphe 2, justification. Qu'est-ce qui permet de fonder, de justifier, d'expliciter le caractère contraignant de la règle? Il y a deux grandes théories historiques en présence pour justifier ça. On va prendre ces deux théories et on va essayer de voir comment la lecture moderne s'est opérée sur la théorie. Donc d'abord, un grand A sur les théories en présence. Grand A, les théories en présence. C'est l'école du droit naturel et l'école du droit positif. Quand je dis école, c'est des écoles de pensée, hein, c'est des courants de pensée. Donc d'abord, l'école du droit naturel. C'est ce que vous trouvez aussi dans les ouvrages sous l'expression le jus naturalisme, jus naturalisme pour les latinistes. Vous avez fait du latin, certains ont fait du latin? À main levée? Ah, quand même. Bon. C'est bien, vous allez en trouver beaucoup en droit. Donc ceux qui ont fait du latin, ça va vous aider un peu. Les autres, il n'est évidemment pas question de se mettre à un cours de latin en plus, c'est pas l'idée, mais faites gaffe à la façon dont vous l'employez, le latin. On le trouve beaucoup en droit, soit dans les adages, soit... Donc il faut être juste un peu opérationnel sur ces termes-là. Bref, pour dire les choses simplement, sur les théories en présence et donc sur l'école du droit naturel qu'on commence par évoquer. Les prémices de cette théorie-là remontent à l'Antiquité, et notamment l'Antiquité grecque, j'y arrive dans un instant. Le fil directeur de cette école du droit naturel, c'est de considérer que le droit est un ensemble de règles qui s'imposent à l'homme, encore une fois, l'homme avec un grand H, au sens neutre du terme, c'est pas ça qui m'intéresse, s'impose à l'individu, à la société dans son ensemble, parce qu'il est la traduction d'un idéal supérieur de justice. C'est ça, l'école du droit naturel, et ça porte bien son nom. En fait, une autorité supérieure, alors il y a plusieurs lectures possibles, chez Aristote, on va y venir dans un instant, mais c'est la nature des choses. Chez Thomas d'Aquin, c'est une lecture plus religieuse de l'approche, mais l'idée, c'est que l'homme est confronté et soumis à un ensemble de règles qui s'imposent du fait d'un idéal de justice. Et donc il y a une espèce de caractère immuable de ces règles-là qui s'imposent de tout temps, en tout lieu, aux hommes, en raison de l'idéal de justice que représentent ces règles. Voilà. Et donc encore une fois, c'est pour ça qu'on appelle ça l'école du droit naturel. Ces règles-là, dans ce courant de pensée-là, elles seraient inscrites dans la nature même des choses, et donc la règle de droit ferait que traduire ces exigences naturelles, ou en tout cas les règles de droit devraient tendre à traduire cet état naturel des choses. Donc je vous dis, on doit beaucoup à Aristote sur ces questions-là, et ensuite, notre période évidemment, mais on doit beaucoup à Thomas d'Aquin aussi, parce que ses écrits ont beaucoup contribué à l'école du droit naturel, pour d'autres raisons. Alors pour Thomas d'Aquin, pour le coup, je vous disais, c'est une approche un peu différente, c'est Dieu qui a inscrit, parce que c'est une lecture religieuse pour lui, c'est une lecture selon laquelle c'est Dieu qui inscrit dans la nature humaine, dans la conscience humaine, des espèces de lois naturelles, évidentes, immuables, parce qu'elles traduisent cet idéal-là, et qu'en fait l'homme, en créant des règles de droit, ne fait que traduire cet idéal. Voilà. L'école du droit naturel, en fait, c'est ça. Et donc c'est l'idée, on voit une influence religieuse hein, très nette qui a perduré pendant longtemps, c'est l'idée que ce droit naturel, il doit guider l'État lorsque l'État adopte des règles de droit. Si l'État s'éloigne du droit naturel, alors les règles qui sont proposées, qui sont édictées, deviendraient injustes. On est sur un terrain presque philosophique là, hein, mais c'est pour vous expliquer les courants de pensée qui ont structuré le caractère obligatoire des règles. En fait, dans l'école du droit naturel, la règle, elle est obligatoire parce qu'elle est dans la nature des choses. Il faut se comporter comme ça. Ça serait une espèce de conscience humaine collective dictée par des choses différentes, encore une fois, chez Thomas d'Aquin, assez largement par une influence religieuse. Mais c'est cette lecture-là qu'il faut retenir. Et voilà ce qu'il faut en déduire. Ce qui justifie la force contraignante de la règle, c'est la nature des choses. Alors la nature divine pour certains auteurs, la nature moins liée à une approche religieuse pour d'autres, mais la règle émanerait en quelque sorte d'une puissance supérieure, la nature, Dieu, etc. Soit ça ne nous intéresse plus du tout dans la lecture moderne, mais il y aurait une espèce de puissance supérieure, d'idéal. Voilà. Peu importe la source en réalité de cet idéal, religieuse ou non, la règle de droit tend vers cet idéal-là et la règle de droit doit traduire cet idéal. Ça, c'est l'école du droit naturel. Et puis, vous avez l'école du droit positif, qu'on appelle aussi l'école du positivisme. Alors, celle-là est très différente. Elle est d'apparition beaucoup plus moderne parce qu'elle naît, grosso modo, sous l'influence de la Révolution française de 1789. Donc, on n'est pas avec Aristote, hein, clairement. C'est beaucoup plus moderne et c'est une école de pensée qui se développe avec les sciences et les techniques, beaucoup sous la révolution industrielle, etc. Et alors là, l'idée est différente. L'idée, c'est de partir de l'observation, de l'investigation du champ du droit, en fait. On observe, on étudie, non pas ce que le droit devrait être, comme dans l'école du droit naturel, avec cette idée d'idéal, et donc on tend toujours vers un mieux. L'école du droit positif, c'est de regarder ce qui est, pas ce qui devrait être. Voilà. On analyse l'existant. Et l'expression droit positif, en dehors de l'école du droit positif qui est un courant de pensée, l'expression droit positif, vous allez la rencontrer partout, tout le temps, dans toutes vos matières, sur toutes les années, et après sur votre exercice de la profession juridique que vous choisirez. Ce qu'on appelle le droit positif, c'est le droit existant à un instant T. Le droit positif français, c'est le droit tel qu'il existe aujourd'hui, là où on discute. Et c'est pour ça que je vous dis que du coup, c'est une école de pensée qui se repose sur l'observation de l'existant. Là, on ne tend pas vers un mieux, on regarde ce qui existe. La doctrine positiviste, puisqu'on l'appelle comme ça, elle se concentre sur le droit positif, c'est-à-dire, encore une fois, sur toutes les règles juridiques en vigueur dans l'État, quelle que soit leur source, on verra les sources du droit dans le chapitre 3, mais donc quelle que soit leur source, que ce soit des sources constitutionnelles, légales, réglementaires, coutumières, jurisprudentielles, peu importe, conventionnelles, toutes les règles de droit qui s'appliquent dans un État donné constituent le droit positif. Le droit positif, c'est le droit certain, le droit existant au moment où on parle. Et donc c'est un objet d'étude concret.
Là, on ne se repose pas sur une idée d'idéal, on connaît les règles parce qu'elles existent, parce qu'elles ont pris corps dans la société, et on en étudie le contenu, les conséquences, etc. Par la suite, il y a une autre coloration de l'école de pensée. Vous irez lire si ça vous intéresse, je laisse ça un peu de côté ici, mais ce qui est intéressant de relever, c'est que cette évolution, alors c'est notamment les travaux de Durkheim et les travaux de Dugui. Alors Durkheim, ça s'écrit D-U-R-K-H-E-I-M. D-U-R-K-H-E-I-M. Et Dugui, D-U-G-U-I-T. Durkheim et Dugui. D-U-R-K-H-E-I-M et Dugui, D-U-G-U-I-T. Leurs travaux sont essentiels parce que ça donne donc une coloration un peu sociologique à l'école du positivisme. Et il y a quand même du coup l'idée qui émerge que c'est la conscience collective de la société qui est à la source des règles de droit. C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait. Quand je vous disais le droit, c'est une matière vivante qui évolue avec la société, on retrouve un peu cette idée-là, du coup. Le droit serait la traduction d'une conscience collective en mouvement. La conscience collective des années 20, c'est pas la même que la conscience collective des années 70, qui est pas la même que notre conscience collective aujourd'hui en 2024. Et encore une fois, ne vous faites aucune illusion, qui ne sera pas la conscience collective des années 2060 et 2100, etc. Une conscience collective, elle évolue. Et elle imprime la règle de droit de ces évolutions. Et donc le droit évolue parce que la conscience collective est en constante évolution. Du coup, dans cette école du droit positif, l'idée pour expliquer la force contraignante, c'est pas de dire que ça vient d'une autorité supérieure, encore une fois, la nature, Dieu, peu importe, c'est que c'est une condition collective du bon fonctionnement social. Voilà. On est tous d'accord pour se plier au caractère contraignant parce qu'on a tous intérêt à ce que la vie en société se passe bien. Et donc, la conscience collective adhère à cette idée de contrainte parce qu'elle a compris que c'est la condition d'une bonne vie en société avec l'autre. Voilà. Donc vous voyez que c'est deux écoles différentes, avec des justifications en tout cas différentes. Pour la première, c'est l'idéal qui s'impose à l'individu, souvent du fait d'une puissance supérieure quelle qu'elle soit. Et donc, dans l'école du droit naturel, la force coercitive, la force contraignante, elle est tirée de cette puissance supérieure. Dans l'école du droit positif, c'est différent, c'est beaucoup plus centré sur l'individu, sur la société. C'est l'intérêt collectif, c'est la conscience collective qui guide ce caractère contraignant. Comment est-ce qu'on fait la synthèse de ces deux écoles de pensée pour en arriver à la lecture moderne ? Alors je précise tout de suite, évidemment, que d'abord les écoles de pensée qu'on vient d'envisager sont très différentes, et que quand il s'agit de savoir ce qu'on en a retiré aujourd'hui, naturellement, même sur l'école du droit naturel, quand on va identifier ce qu'il en reste dans la lecture moderne, la référence religieuse a complètement disparu. Il n'est plus question aujourd'hui de penser que les règles qui sont adoptées par l'État, en tout cas par l'État français, encore une fois, il y a des États différents qui ont une approche différente de la religion dans son intégration aux règles de droit, mais ici on raisonne au prisme de l'État français. Pour l'État français, il ne s'agit plus jamais de considérer que la règle de droit serait la traduction d'un idéal supérieur dicté par Dieu ou une puissance divine. Du tout. Mais il y a quand même une synthèse qui s'opère, une fois qu'on a précisé ça, une synthèse qui s'opère entre les deux visions, l'école de droit naturel et l'école du positivisme. La règle de droit, elle répond à un choix de société, et dans ce cas-là, on est plutôt sur l'école du droit positif. Elle est l'expression d'un choix collectif de société, mais elle doit correspondre et elle doit protéger les valeurs supérieures de l'individu. Et là, on est plutôt vers une logique d'idéal. Alors, encore une fois, une logique d'idéal qui, dans la lecture moderne, est expurgée d'une lecture en lien avec la religion, mais on peut tendre vers un idéal, y compris un idéal de justice, sans que ce soit avec une connotation religieuse. Voilà. Donc on a expurgé la lecture religieuse avec la lecture moderne, mais on a conservé cet idéal. Tant mieux, c'est bien qu'il y ait un but d'idéal supérieur à atteindre dans une règle de droit. C'est l'objectif quand même, hein, dans nos sociétés modernes, de tendre vers le mieux et vers le plus juste possible. Après, la difficulté, c'est de définir cet idéal de justice. Mais donc, c'est bien ça. Il y a deux versants. Un choix de société, là vous êtes plus côté école du droit positif, mais un choix de société qui transcende quand même l'individu en exprimant un idéal de justice supérieur. Et là, vous êtes plutôt côté école du droit naturel. Si on reprend ces deux éléments-là, d'abord, en ce qui concerne le fait que la règle traduise un choix de société, c'est essentiel à comprendre pour ne pas avoir une vision fermée, obtuse, et on s'en rend compte quand on fait du droit comparé. Alors, le droit comparé, il est absolument décisif sur cette question-là, parce qu'il nous permet de prendre du recul. Le droit comparé, c'est le droit qui compare les différents systèmes juridiques qui existent dans le monde. Voilà. Le droit comparé, c'est ça. Le droit français, il présente des spécificités par rapport à d'autres systèmes juridiques dans le monde. Il ne correspond pas, c'est rien, moi, au système américain, au système japonais, au système turc. Tous les systèmes juridiques présentent leurs spécificités. Alors, il y a des systèmes qui ont des points d'achoppement, des points de similitude plus grands. Typiquement, les membres de l'Union européenne, on en parlait tout à l'heure quand je vous disais qu'il faut se garder de croire que toutes les règles appliquées sur le territoire français sont d'origine française. Les membres de l'Union, ils ont un certain nombre de règles du fait de leur appartenance à l'Union qui sont communes. Mais on conserve quand même des spécificités. Et en dehors de l'Union, évidemment, ces spécificités-là, elles sont plus grandes. Pourquoi est-ce que j'en parle ici ? Bah parce qu'elles sont précisément ces différences entre les systèmes, des traductions, des différences entre la volonté politique et la conscience collective des individus, des ressortissants des différents États. Il y a plein de différences qui expliquent les différences de régime juridique, des différences historiques, culturelles, religieuses. Il y a plein d'éléments qui justifient que dans certains États, la place de la religion parfois est plus grande. Dans certains États, on a une lecture beaucoup plus, protectrice de l'individu avec un système plus social. Dans d'autres États, vous allez avoir une approche beaucoup plus libérale. Si vous faites le comparatif, j'en sais rien, mais on va prendre des trucs très tranchés parce qu'on discute entre nous. Si vous faites la différence entre la protection sociale accordée en France aux individus et la lecture américaine, notamment sous l'ère Trump, de la protection des individus, il y a une marge. Ces deux États démocratiques, mais clairement, ça reflète une vision de la société, une conscience collective, qui là, pour le coup, s'exprime aussi par le vote, qui est différente. Il ne s'agit pas, c'est pas mon but ici de comment dire, ça arrivera parfois, parce que parfois j'ai un peu de mal à me taire, mais c'est pas mon but de poser un jugement, a fortiori un jugement politique. C'est pas mon job ici, j'évite autant que faire se peut. Mais il faut avoir conscience de ça. Pourquoi est-ce que les systèmes politiques et juridiques, du coup, d'un État à l'autre ne se ressemblent pas ? Parce que le vécu des États est différent. Et que ça donne lieu à des consciences collectives différentes, pour plein de raisons qu'on vient d'évoquer, et qui, du coup, expliquent que la majorité des citoyens, à un moment, adhèrent à un projet politique qui se traduit dans les règles de droit. Voilà. Et on est en train, là, je suis en train, moi, toute seule, en monologuant, de faire une approche comparative. Mais chez nous aussi, en réalité, là, quand on regarde, et on va pas encore une fois faire un cours de Sciences Po, mais quand on regarde ce qui se passe avec la constitution du gouvernement, il semblerait qu'un refus de constitution d'un gouvernement nouveau Front Populaire soit aussi dicté par le « on ne veut pas faire tomber la réforme des retraites, on ne veut pas de SMIC à 1 600 €, il me semble ». Ça serait des règles de droit nouvelles. La question étant, est-ce que la société, dans sa majorité, parce que c'est jamais un ensemble absolu, est-ce que la société, dans sa majorité, a exprimé une volonté d'avoir de nouvelles règles en ce sens ? Le droit, c'est ça. Et, alors plus ou moins selon la spécialité que vous choisirez, mais vous aurez de la politique dans presque toutes les branches du droit, il y a aussi une dimension éminemment politique sur le contenu des règles existantes, sur la possibilité de les faire évoluer, etc. Évidemment, le droit, c'est une matière de sciences humaines, il y a une dimension politique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qui appartient aux citoyens, que vous ne détacherez pas. Enfin, vous allez faire du droit de la famille au second semestre, la reconnaissance du mariage homosexuel, c'est 2013. Vous êtes tout petit, pour le coup, en tout cas par rapport à moi. 2013, vous étiez là depuis un moment. C'est ultra récent. Les sociétés évoluent, le droit bouge avec. Et nous, on reconnaît le mariage homosexuel, il y a plein d'États qui le font, il y a plein d'États qui ne le font pas. Et il y a des États qui continuent à pénaliser l'homosexualité, c'est-à-dire à reconnaître l'homosexualité, à considérer l'homosexualité comme un délit pénal. Voilà. En tant que juriste, là, indépendamment de nos points de vue de citoyens, il faut avoir conscience de ça. Et donc, quand je vous définis le droit objectif aussi comme le reflet d'une lecture politique et sociétale dans un État, ces exemples-là, ils sont très tranchés. Et ce qui se passe aux États-Unis, et vous avez sans doute suivi ou vu passer sur les questions de grandes limites de l'avortement et de ce qui existe, parce que tout est lié. Peut-être que vous n'avez pas vu passer ça. Je fais des digressions, mais qui vont avec. Il y a des questions qui se posent sur les applis que peut-être certaines utilisent ici, qui vous permettent de calculer vos cycles, etc., menstruels. Et on s'est rendu compte que les données étaient transmises. Et que donc, à un moment, en fait, quand vous aviez plus vos règles pendant un mois et demi, deux mois, et que vous recommencez à les avoir, a priori, vous vous êtes fait avorter. Et si c'est dans un état où vous n'aviez pas le droit de vous faire avorter, voilà. Quand je vous dis qu'il y a du droit partout, quand on utilise ce type d'appli-là pour vérifier si on a du retard ou si tout va bien, ou si on ne se doute pas, en fait, que ça peut permettre d'être une porte vers une sanction pénale, parce que c'est comme ça que ça se passe, ben oui. Voilà. Et quand je vous disais en intro, à l'intro, les données personnelles, c'est un vrai truc où il faut... Alors, je prêche pour ma paroisse parce que c'est une de mes spécialités, mais il faut, en tout cas, quelle que soit la spécialisation que vous choisirez, être ultra vigilant. C'est des vraies questions, parfois, qui sont derrière les données personnelles. Là, sur cette problématique-là, il y a une vraie difficulté qui se pose. Vous pourrez lire, hein, il y a plein de choses qui ont été écrites sur le sujet, c'est passionnant, hein, j'ai pas le temps d'approfondir, on n'est pas dans un cours de données perso en droit comparé, mais c'est pour vous donner une idée. Voilà. Le fait est que, dans ce qu'on peut en déduire ici, oui, le droit positif, le droit objectif est le reflet d'une volonté politique et sociale. Et c'est ce qui explique que les systèmes juridiques soient différents. Si je pose une conclusion ici de ce premier chapitre, on a quand même déjà pas mal bossé. Et on a pas mal bossé parce qu'on sait comment on caractérise une règle de droit et comment on l'isole du coup des autres types de règles. Elle a plusieurs caractéristiques, cette règle de droit, elle en partage certaines avec d'autres règles, et au premier titre avec les règles morales et religieuses. Elle est générale, abstraite, elle est dictée par une finalité sociale, au sens où elle est là pour organiser les rapports avec l'autre, les rapports de la vie en société. Par ailleurs, on a vu qu'elle était extérieure à l'individu au sens où elle s'impose, où elle préexiste à la volonté de l'individu. Et surtout, elle est dotée d'une force contraignante, laquelle est garantie par l'État qui en est l'auteur. C'est l'État qui pose que la règle est obligatoire et qui, du coup, pose la sanction afférente. C'est ça, c'est cet élément-là qui permet de faire le point de bascule et d'identifier précisément la spécificité de la règle de droit par rapport aux autres règles. Donc évidemment, si vous ne respectez pas, il y a des sanctions qui sont prévues par la loi. Et c'est comme ça qu'on assure le bon fonctionnement de la vie en société. On a découvert aussi que la règle de droit, elle était la traduction de la volonté collective ou à minima de la volonté majoritaire. La volonté collective, c'est difficile à envisager comme un absolu, mais c'est une volonté majoritaire. Voilà. En tout cas, dans les États démocratiques, là encore, si on fait des parallèles, ça peut être plus discutable dans certains autres systèmes. Dans une société démocratique, ben, en fait, c'est le plus nombreux qui l'emporte. et donc c'est le plus nombreux qui va dicter un projet politique. Voilà. Donc, dans cette perspective-là, le droit est une traduction d'une volonté politique majoritaire. Voilà. Et en fonction de l'orientation politique de l'État, les règles de droit vont changer, incontestablement. C'est ça donc qui permet le bon fonctionnement de la vie en société. Je vous rappelle que l'anarchie, en termes étymologiques, quand je vous dis apprenez à lire au sens de faire attention au sens des termes, l'anarchie en grec ancien, c'est l'absence de commandement, c'est-à-dire l'absence de règles. Un système anarchique, c'est un système où il n'y a pas de règles pour encadrer la vie en société. Voilà. Donc, l'existence du droit, c'est ça. Ce à quoi vous vous destinez aujourd'hui, et l'ambition modeste dans un cours d'intro, c'est de vous expliquer ce cadre-là. En fait, moi, je vais faire que ça. Les 33 heures de cours d'intro, c'est de vous poser le cadre. Et c'est vous qui remplirez le cadre derrière, en ayant encore une fois, après, une appétence plus ou moins forte pour le privé, pour le public, décider où vous irez. Mais un cours d'intro, ça sert à ça. Et c'est pour ça que je vous dis aussi que j'essaierai d'avoir un certain nombre d'éléments pour vous amener à réfléchir aussi sur ce qui vous intéresse davantage. Est-ce que sur ce premier chapitre, il y a des questions? C'est bon? Alors, il nous reste... Alors oui, vous avez cours à quelle heure après moi? Ok. Peut-être qu'on vous a expliqué le quart d'heure supplémentaire qu'on nous a accordé sur les 3 heures de créneau, c'est au cas où on déborde. Je vous dis tout de suite que moi je ne m'en servirai pas. On fait 3 heures, donc on s'arrête à midi. Je commence à 9h pile, donc soyez pas en retard. Mais je m'arrête à midi, donc le quart d'heure supplémentaire, il est à vous. On ne s'en sert pas. Simplement, donc je fais ici juste l'annonce du chapitre 2. Chapitre 2 qu'on traite demain à 13h. Je précise simplement que demain, je suis obligée de vous lâcher non pas à 16h, mais à 15h45. C'est exceptionnel, mais c'est gentil, la déception immense sur les visages. Vous vous souvenez au début quand j'ai dit mon ego pendant ce temps-là? Là, je sors et je suis blessée dans mon ego, mais j'ai l'habitude. Donc, demain, exceptionnellement, non seulement je vous lâche à 15h45, mais exceptionnellement, je ne prendrai pas de questions à la fin du cours si vous avez des questions pour venir me voir. Donc soit vous venez sur les 2 premières pauses, on fera 2 pauses demain et je prendrai les questions, soit vous me les posez lundi matin, mais il faudra vraiment que je file demain. Donc, pour introduire juste notre chapitre 2 et après je vous laisse tranquille. On vient de voir donc les caractères. Maintenant, on va voir comment on s'organise, parce qu'évidemment, les règles de droit sont extrêmement nombreuses et que vous allez constater très vite que le juriste adore diviser, subdiviser, etc. On est très fort pour ça. C'est carré, le droit, voilà. Donc, on pose des divisions. À l'intérieur des divisions, on pose des subdivisions pour que ce soit le plus ordonnancé possible. Je me présente là de manière un peu caricaturale. En réalité, on fait ça parce que plus on divise, mieux on pense. Voilà. Plus on ordonnance, plus on organise un contenu, ici des règles de droit, et plus la pensée est claire, plus on sait où on va. L'objectif des divisions, ici, c'est exactement ça. Vous allez aller dans l'étude des divisions du droit, l'objectif, c'est d'identifier plus précisément les particularités qui sont propres à chaque champ, et notamment à chaque champ du droit. Alors, le truc, c'est qu'on peut distinguer de manière variée. Il y a plusieurs critères qui permettent de distinguer, de diviser à l'intérieur du droit objectif. D'abord, le premier critère, c'est celui de l'espace. Alors, évidemment, pas les planètes et les étoiles. Quand je dis espace, je parle de l'espace au sens géographique du terme, une distinction dans l'espace. Je vous ai dit dans le chapitre précédent que, à de nombreux égards, le droit français était différent des droits étrangers. Mais il faut ajouter en plus de ces droits internes, donc quand on dit droit interne, c'est les états propres, les règles propres à chaque état. Vous avez le droit interne français qui est composé des règles qui s'appliquent en France, le droit interne tchécoslovaque, etc. Bref, En plus de ça, il faut avoir conscience que le droit qui s'applique dans un état donné n'est pas que le droit adopté, créé dans l'état donné. En France, on en disait un mot dans l'intro à l'intro, vous avez évidemment des règles qui sont adoptées en France, qui sont votées par le Parlement, qui sont prises sous forme d'ordonnance par le gouvernement, etc. Mais vous avez aussi des règles qui viennent d'ailleurs dans l'espace. Évidemment, le droit de l'Union européenne, vous savez qu'on est membre de l'Union européenne, donc l'Union aussi a un Parlement européen, on parlera demain du trilogue dans l'Union européenne, il y a un Parlement européen, c'est une source supranationale, c'est-à-dire que c'est des sources qu'on dit harmonisées, les États membres adoptent les mêmes règles, et donc c'est des règles qui vont s'appliquer en France, on commencera à expliquer demain comment elles s'appliquent en France, mais qui ne naissent pas en France. Elles naissent au niveau de l'Union. Alors bien sûr, la France est partie. Elle a des représentants au Parlement européen, etc. Donc on contribue à la discussion, mais la discussion n'est pas franco-française. Et l'adoption n'est pas franco-française. Et de la même manière, la règle, elle peut venir de traités et de conventions internationales. Là, c'est plus l'Union européenne, mais on va conclure un contrat avec l'Arabie saoudite, avec la Chine, avec peu importe. Vous allez avoir des conventions, des traités internationaux qui vont parfois contenir des règles qui s'appliquent directement en France. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a des divisions dans l'espace sur lesquelles on reviendra demain. Règles internes, règles de l'Union, règles issues du droit ce qu'on appelle conventionnel, c'est-à-dire les conventions et traités internationaux. Et même si on raisonne juste sur le droit interne, il y a un autre type de distinction qui peut être opérée et qui, pour l'essentiel, repose sur la relation, sur le rapport en cause dans la situation qu'on regarde. C'est la distinction qui, encore une fois, va être déterminante pour vous parce que dans 2 ans et demi, en gros, non, dans 2 ans, dans moins de 2 ans, c'est moi qui calcule n'importe comment, comme toujours, dans moins de 2 ans, il faudra vous définir pour savoir si vous êtes publiciste ou privatiste. Est-ce que vous voulez faire du droit public ou du droit privé ? Voilà. Là, comme ça, et je referai sûrement sur la dernière heure du dernier cours, qui est plutôt attiré privé ? Qui est plutôt attiré public ? On gagne à chaque fois. C'est intéressant. Faites-moi penser à refaire en dernier cours, voir si ça a bougé un peu. La proportion est toujours plus grande sur privé. Là, je trouve qu'il y a moins de monde quand même sur public, donc on verra si ça évolue. Mais donc, oui. La distinction, allez, 5 minutes de concentration, mais je vous laisse tranquille, promis. La distinction, l'autre division possible, c'est la division qu'on va opérer, qui est une des grandes classifications du droit. On appelle donc ça une summa divisio, voilà le latin. Summa, ça s'écrit S-U-2-M-A, et divisio D-I-V-I-S-I-O. Une grande distinction, une distinction supérieure entre public et privé. Est-ce que la relation en cause que vous étudiez concerne l'État, la puissance publique, une émanation de l'État quelle qu'elle soit ? Dans ce cas-là, c'est du droit public. Est-ce que la situation que vous observez ne concerne que des rapports entre ce qu'on appelle des personnes privées, c'est-à-dire sans implication de l'État ou de la puissance publique ? Dans ce cas-là, c'est du droit privé. Et on verra demain que, évidemment, ces divisions-là se subdivisent. Et à l'intérieur même des subdivisions, vous avez de nouvelles subdivisions. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis que pour vous, c'est passionnant aussi, parce que vous commencez là maintenant, et le fait que vous ayez des appétences plus ou moins pour le privé et le public, là, en commençant une première année, ça n'est que le début d'un chemin qui se dessine. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont déjà en tête ce qu'ils veulent faire précisément. Souvent, avec les études, vous verrez que ça évolue. Vous allez découvrir des... qui va être avocat. Magistrat, juriste d'entreprise. Je me tente quand même, je sais, hein, mais enseignant-chercheur. Merci. Toujours un peu dur ce genre de... Je savais, hein, mais ça fait pas plaisir quand même. Qui ne sait pas à quoi il se décide ? Ah, c'est chouette aussi. Bon, tout ça va se dessiner.
ça va se dessiner et vous verrez que, alors vous serez accompagné hein, dans ces découvertes-là, mais ce cours-là sert notamment à ça. On va identifier des problématiques qui vont commencer hein, à vous permettre de dessiner un chemin. Donc, ouais, vous savez quoi, on s'arrête là et on fera les divisions dans l'espace de... Je sais me rendre populaire. Hein. Allez, à demain, merci beaucoup.